La suite des matins de France Culture en votre compagnie, Camille Magnard, bonjour.
Bonjour.
Pour la revue de presse internationale, on ne voit pas tous les jours une telle unanimité. Et ce matin, ce sont les mêmes images que l'on retrouve en une de tous les journaux à travers la planète.
Oui, la prime à l'image et celle-ci, c'est vrai, est particulièrement sensationnelle. Le Museu Nacional de Rio de Janeiro est en feu et les flammes sont en train de le dévorer complètement sous l'objectif donc des caméras du monde entier. C'est la chaîne brésilienne O Globo qui a alerté la première dans la nuit. Le musée national, c'est, nous explique-t-on, la plus ancienne des institutions scientifiques du Brésil, fondée en 1818, plus grand musée du continent sud-américain par la richesse de ses collections qui vont des squelettes de dinosaures aux beaux-arts en passant par l'Égypte antique et les civilisations précolombiennes. Il renfermait, ce musée, une mémoire inestimable, a dit le président brésilien Michel Temer. Le journal Correio Brasiliense, ce matin, retient surtout que c'est là qu'était conservé le crâne fossilisé de Luisa, 11 000 ans, connue comme la première brésilienne. Mais ce qui ressort très vite aussi de la couverture de cet incendie, c'est le début de polémique sur l'état du musée. Grandeur et décadence d'une institution deux fois centenaire, titre la Folha de Sao Paulo. Le musée Carioca attendait une rénovation urgente depuis des années, mais les aides publiques et privées n'arrivaient pas, confie à O Globo le directeur adjoint de l'établissement. On apprend aussi que le vieux musée était rongé par les fuites d'eau et la rouille. Les combles étaient infestés de chauves-souris et d'opossums. Les bouches à incendie autour du bâtiment ne fonctionnaient tout simplement pas quand les pompiers sont arrivés, raconte enfin O Globo, où l'on retrouvera le récit des tentatives désespérées des gardiens du musée pour sauver ce qui pouvait l'être.
Et les Brésiliens, Camille, assistent impuissants à la disparition de ces trésors culturels et ça éclipse pour quelques heures, en tout cas le début très mouvementé de leur campagne présidentielle.
L'élection aura lieu le 7 octobre, la campagne a démarré ce samedi avec donc une décision du tribunal électoral suprême, la disqualification de l'ex-président et leader de la gauche brésilienne Lula. Il était jusque-là le candidat du Parti des travailleurs depuis la prison où il purge une peine de 20 ans pour corruption. Le Correio Brasiliense, là encore, nous rappelle que la décision portait en particulier sur les spots de campagne télévisée du Parti des travailleurs, comme celui-ci par exemple.
O povo brasileiro não é bobo, o povo sabe o que aconteceu no período que nós governamos esse país.
C'est Lula en personne qui apparaît pour défendre le bilan de ses 12 années passées au pouvoir. On ne voit son colistier Fernando Haddad que quelques secondes à la fin. C'est pourtant lui, Fernando Haddad, aujourd'hui qui va être adoubé comme candidat en plein par Lula en personne depuis sa prison de Curitiba. Car le Parti des travailleurs, le PT, a abdiqué face à la pression judiciaire, analyse dans O Globo l'éditorialiste Bernardo Melo Franco. Le parti de Lula reconnaît enfin que son leader est sorti de la course et en faisant cela, il renonce à un suicide électoral. Pour autant, reconnaît Melo Franco, la décision des juges vendredi restera dans les mémoires comme la plus grande ingérence du pouvoir judiciaire dans une élection présidentielle, et ce, depuis la fin de la dictature. Avec Lula hors jeu, commente enfin la Folia, la campagne est relancée. Désormais, le grand favori des sondages, c'est Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite avec son programme intitulé « Le Brésil d'abord et Dieu avant tout ». Le PT et les autres partis brésiliens n'ont plus qu'à se battre pour figurer au second tour face à lui.
Et la presse étrangère, Camille, réserve également une large place à la situation dans l'est séparatiste de l'Ukraine.
Oui, la région de Donetsk, où vendredi, le dirigeant de l'autoproclamée République populaire de Donetsk, Alexandre Zakharchenko, a été tué par une bombe qui a explosé dans un bar où se trouvait le leader pro-russe. La BBC revient sur les obsèques réservées hier à celui qui restera comme le premier président de cet état fantoche et toujours en guerre contre Kiev. Des dizaines de milliers de personnes réunies dans les rues de la ville. On les voit en photo, en ligne compacte, entourée de soldats en armes, des citoyens endeuillés venus spontanément rendre un dernier hommage à leurs dirigeants, comme le légende de la BBC, ou plutôt, corrige l'agence de presse Unian, agence de presse ukrainienne, des milliers d'étudiants et de fonctionnaires forcés à venir pleurer l'éminent disparu. On les a amenés par bus depuis toutes les communes voisines, nous explique aussi le site d'info ukrainien Novosti Donbassa, une gestion de foule dont il n'est jamais question dans les récits que fait la presse russe de ses obsèques nationales à Donetsk. Récit en images sur gazeta.ru, pas avare de photos montrant des jeunes filles ou des vieilles dames en larmes et une marée humaine sous de grands panneaux à la gloire de Zakharchenko avec inscrite cette phrase « Nous n'avons qu'une patrie, la Russie ». Enfin Guillaume, n'allez pas croire que je ne vais pas vous parler de Donald Trump ce matin. C'est indirectement dans la presse économique asiatique et oui qu'on évoque le président américain ce matin. Comme dans le South South China Morning Post qui nous explique pourquoi les relations entre la Chine et le Japon sont en train de très sérieusement se réchauffer avec l'espoir renaissant de voir conclu prochainement un grand accord bilatéral de libre-échange entre les deux grandes puissances. Tokyo et Pékin, qui discutaient commerce cette semaine, se retrouvent poussés dans les bras l'une de l'autre par la politique agressive et protectionniste de Trump, lequel a dit ce week-end qu'il ne se rendrait pas en novembre à Singapour pour le sommet de l'ASEAN. Cette bouderie du président américain, analyse le Sydney Morning Herald, renforce les craintes des pays asiatiques, craintes qu'avec un désengagement des États-Unis dans la région, ils perdent le principal contre-pouvoir à l'hégémonie chinoise sur tout le continent.
Merci beaucoup Camille Magnard, il est 7h41 sur France Culture.